Bonsoir, ou peut-être bonjour. En tout cas, ici à Paris, il est 19h.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Des faits, des analyses, des commentaires, c'est RFI Soir. Et pour commencer, un journal. À la une de l'actualité, le Hamas qui libère 6 nouveaux otages à Gaza. Cet élargissement intervient quelques heures après avoir restitué le corps de Shiri Bibas qui a été identifié par sa famille. Le narcotrafiquant Mohamed Amra, en fuite depuis son évasion en mai dernier, arrêté en Roumanie aujourd'hui. Ses comparses avaient tué 2 agents pénitentiaires. En sport, une déception pour les favoris français. Aux mondiaux de biathlon, le relais masculin ne décroche que la médaille d'argent derrière la Norvège. Le 7e échange contre des prisonniers palestiniens dans le cadre de la trêve en vigueur depuis le 19 janvier a donné lieu à la libération de 6 otages israéliens. Il n'y a pas eu encore de contrepartie. À ce sujet, Benjamin Netanyahou tient une réunion de sécurité. À Ramallah, des familles, également des Palestiniens qui ne sont pas venus attendre un proche, se retrouvent pour assister au retour, donc dans les heures qui viennent, a priori des Palestiniens chez eux. C'est le cas de cet homme qu'a rencontré Pierre-Olivier.
Le peuple palestinien et les prisonniers demandent la liberté. C'est pour ça que vous voyez ce rassemblement et tant de monde. C'est un jour palestinien, un jour de victoire, un jour de joie. Nos prisonniers sont libérés après la souffrance de tout un peuple. Plus de 50 000 martyrs et la bande de Gaza rayée de la carte. Les prisonniers ont donné une partie de leur vie pour la liberté et maintenant le peuple doit être là pour eux. Du côté israélien, on a vu que tout un peuple se réunissait pour la libération de 3 prisonniers. Alors que nous avons 10 000 prisonniers, donc c'est ce qu'on doit faire, être ensemble, tous ensemble. De l'autre côté, les Israéliens ont passé 480, 500 ou 504 jours en détention. Nous avons des prisonniers qui ont passé 45 ans chez eux. Alors c'est notre devoir de venir les accueillir.
Par ailleurs, le Hamas dénonce ce qu'il appelle des mensonges sans fondement après les affirmations de dirigeants israéliens selon lesquelles les 2 petits frères Bibas avaient été tués à Gaza par des terroristes à main nue. À l'avant-veille des 3 ans de l'attaque russe en Ukraine, plusieurs centaines de personnes rassemblées à Londres en soutien à l'Ukraine. Le contexte est que les pays européens craignent que le président américain mette fin à la guerre à des conditions favorables à Moscou sans fournir de garantie de sécurité à Kiev. Et alors que lundi marquera les 3 ans de l'invasion russe, les États-Unis continuent de mettre la pression pour un accord de paix sans consultation, donc avec les Européens. Et aux Nations Unies, Washington vient de proposer une résolution qui tranche avec les positions de l'Assemblée sur ce dossier. Loubna Anaki.
Le texte a été transmis vendredi aux 193 membres de l'Assemblée générale des Nations Unies. 3 paragraphes, 65 mots à peine, pour un projet de résolution réclamant, je cite, « une fin rapide au conflit et une paix durable entre l'Ukraine et la Russie ». Les Américains insistent sur le fait que la mission principale de l'ONU est de maintenir la paix et la sécurité dans le monde et de régler les conflits de façon pacifique. Le texte ne porte aucune mention à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ce qui le place automatiquement en opposition à la position de Kiev et de ses alliés européens, ainsi qu'aux précédentes résolutions adoptées par les Nations Unies. D'ailleurs, l'Ukraine et les Européens avaient eux aussi proposé un projet de résolution en prévision de la réunion de lundi à l'Assemblée. Un texte dont le langage a été certes atténué par rapport au précédent, évitant de critiquer directement la Russie, mais qui réclame toujours le retrait des troupes russes du territoire ukrainien. Le texte américain a été salué par l'ambassadeur russe à l'ONU. Ces 2 projets de résolution reflètent les approches différentes adoptées par les Européens et les États-Unis depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Loubna Anaki, New York, RFI.
La campagne électorale s'achève en Allemagne où les électeurs sont appelés aux urnes demain pour élire leurs députés. Les écologistes sont crédités d'environ 13% dans les sondages alors qu'ils affrontent de nombreuses attaques malgré une vague record d'adhésion. Pascal Thibault est allé à la rencontre de militants à Duisbourg dans le bassin de la Ruhr.
Dans ce quartier sud de Duisbourg, le tractage dans la rue des Verts est plus facile que dans le nord de la ville avec des quartiers difficiles où l'extrême droite marque des points où la tension est plus palpable. Sébastien Ritter, adjoint au maire écologiste de Duisbourg, s'engage chez les Verts depuis 15 ans. Il n'a jamais été confronté à un vent aussi mauvais.
La situation est plus tendue. Je n'ai jamais été autant insulté que durant cette campagne électorale. Il y a une haine contre les Verts qui est cultivée dans certains milieux et sur les réseaux sociaux. C'est un défi pour la démocratie.
herausforderung für diese Demokratien.
Il y a les autres, comme cette électrice qui s'arrête sur le stand des Verts. Sa fille dessine à la craie sur le trottoir un message de soutien aux écologistes.
Je trouve ça étonnant qu'ils aient réussi à laisser leur pacifisme traditionnel derrière eux pour s'opposer à Poutine. Chapeau.
En même temps, les Verts à Duisbourg ont accueilli un quart de membres supplémentaires ces derniers mois. Ces personnes veulent défendre la démocratie et un parti qu'ils jugent injustement critiqué. Michel, un Français, milite chez les Verts depuis 4 ans. Il espère que le parti pourra rester aux affaires après les élections.
Ils sont prêts à travailler avec tous les partis démocratiques. Être présent dans la nouvelle coalition, ça serait bien.
L'alliance la plus probable reste celle entre chrétiens et sociodémocrates après les élections, mais les écologistes ont aussi leur chance. Pascal Thibault, Duisbourg, RFI.
En France, la fin de 9 mois de cavale pour Mohamed Amra. Le narcotrafiquant âgé de 30 ans vient d'être arrêté en Roumanie. Surnommé la mouche, il avait été libéré par un commando qui avait attaqué son convoi, tué 2 agents de l'administration pénitentiaire. C'était lors d'un transfert en Normandie, Elisa Fellier.
284 jours qu'il était introuvable. Mohamed Amra et ses complices étaient recherchés en France par plus de 300 enquêteurs. Visés par une notice rouge d'Interpol, de lourds moyens ont été déployés, y compris à l'étranger, pour retrouver le détenu évadé. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a remercié pour leur coopération décisive les forces de police et la Roumanie, pays où Mohamed Amra a été arrêté. Le 14 mai dernier, le narcotrafiquant s'était évadé lors d'un transfert en Normandie, dans le nord-ouest de la France. Des complices avaient attaqué le fourgon blindé dans lequel il était transporté. Une attaque à la voiture bélier et au fusil d'assaut d'une grande violence et dans laquelle 2 agents pénitentiaires ont été tués et 3 autres blessés. Mohamed Amra, surnommé la mouche, serait à la tête d'un réseau de trafic de stupéfiants. Il est soupçonné d'avoir commandité plusieurs meurtres pendant sa détention.
Le parquet antiterroriste saisi de l'enquête sur l'attaque à l'arme blanche qui a fait un mort à Mulhouse. L'agresseur qui a également grièvement blessé des policiers municipaux a crié « Allah Akbar » avant d'être interpellé. Emmanuel Macron a évoqué un acte de terrorisme islamiste qui ne fait pas de doute. Propos tenus au Salon de l'Agriculture. Emmanuel Macron qui a voulu y rassurer sur les accords commerciaux internationaux. L'inauguration de ce 61e salon a été plus apaisée que l'an passé face, cela dit, à des paysans toujours remontés, Victorien Villaume.
Oui, exactement, des paysans toujours remontés, mais une journée qui s'est plutôt passée sereinement. Alors certes, on a pu entendre des sifflets, des visiteurs critiquer le président le voyant passer, mais globalement donc des échanges cordiaux et nombreux.
Monsieur le président. Bonjour. Monsieur. Allez, je vous offre,
donnez-moi 2 verres pour les ministres.
Je me souviens quand Thierry Benoît.
De nombreux curieux ont aussi tenté de se rapprocher du chef de l'État, évidemment, pour le prendre tant bien que mal en vidéo. Ambiance sereine, mais il faut le dire, les agriculteurs de leur côté ont tenu quand même à interpeller le chef de l'État et montrer leurs inquiétudes sur de nombreux sujets, comme l'installation des jeunes agriculteurs, le renouvellement des générations, mais surtout les craintes autour de l'accord de libre-échange du Mercosur. Le président à ce sujet a tenté de rassurer le chef de l'État, redit que cet accord est un mauvais accord et il affirme également qu'il continue de chercher une minorité de blocage au sein de l'Union européenne. Pendant sa longue déambulation, le chef de l'État, entouré par un dispositif de sécurité important, est aussi allé voir les pêcheurs pour assister à une réunion. Il est sur le point de terminer sa visite avec une rencontre à huis clos aux côtés de viticulteurs.
Victorien Villaume au Salon de l'Agriculture pour RFI. Dans l'affaire Betarame qui met sous pression François Bayrou, cette déclaration justement du président de la République, le Premier ministre a toute ma confiance. Autre déclaration d'Emmanuel Macron, la perte de fréquence hertzienne des chaînes de télévision C8 et Énergie 12 n'est pas une décision politique du tout. Propos tenus 7 jours avant la clôture de ces antennes décidées par l'ARCOM. Nous y revenons dans quelques minutes dans RFI Soir. Et puis, sachez que plusieurs centaines de personnes rassemblées à Paris se sont rassemblées à Paris contre le fascisme, 6 jours après l'agression d'un homme à l'arme blanche, pour lesquels 6 membres de l'ultra-droite ont été mis en examen. Dimanche dernier, une vingtaine de personnes appartenant à la mouvance d'ultra-droite, cagoulées, munies de tessons de bouteilles, avaient pénétré dans la cour d'un immeuble où se situe une association culturelle de travailleurs immigrés de Turquie. de Turquie, pardonnez-moi. Et puis Trump veut que Musk soit plus agressif dans les réformes visant à réduire les dépenses publiques du gouvernement fédéral. Déclaration du président américain sur sa plateforme Truth Social. N'oubliez pas que nous avons un pays à sauver, écrit-il. L'homme le plus riche du monde et le premier donateur de la dernière campagne de Trump a déjà mis en œuvre des mesures visant à licencier des pans entiers du personnel fédéral. Il est maintenant 19h10, les sports. Sofiane Amazon, le football, 23e journée du championnat de France. Choc au sommet entre Lille et l'AS Monaco et victoire des nordistes qui montent sur le podium.
Oui, le LOSC qui vient tout juste de s'imposer à domicile face à des monégasques éliminés de la Ligue des Champions cette semaine en barrage, c'était face à Benfica, score final. 2-1, doublé d'Akon Haraldsson pour Lille, réduction de la marque signée Takumi Minamino. Avec ce 11e succès de la saison, les Dogs sont 3e, Monaco chute à la 5e place.
Et ce soir, l'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse d'Auxerre.
Et rappelez-vous du match aller, Philippe, début novembre, les joueurs de Roberto de Derby avait été surpris par les Auxerrois repartis du Vélodrome avec une victoire 3-1. Depuis, les Marseillais dauphins du PSG en ont fait du chemin et c'est une autre équipe qui va se présenter au stade de l'Abbé des Champs, le coach de la JOCR, Christophe Pélissier.
On a été un détonateur pour eux parce que depuis, on voit vraiment une équipe, le dire, une équipe fantastique à avoir joué. Je m'attends à aucun cadeau de leur part et aucune baisse, j'allais dire, de concentration. C'est une équipe qui a son jeu qui est très très bien établi maintenant, avec des individualités à la fois qui sont montées de niveau parce qu'ils sont arrivés, ils étaient arrivés en cours de saison, qui ont bien compris tous les préceptes de leur coach. En plus, un recrutement cet hiver qui est encore plus de qualité. Voilà, c'est une équipe de très très haut niveau. Tout simplement, donc quand je dis que c'est souvent eux qui ont les clés, nous on va essayer aussi de mettre en place des choses. Après, on espère pouvoir les réaliser.
Un coup d'envoi de ce OCROM, 20h05, temps universel.
En Angleterre, Manchester United n'y arrive toujours pas. Match nul face à un autre mal classé, Everton.
Et les Red Devils qui ont longtemps été menés 2-0 à Goodison Park grâce à l'attaquant Beto et le milieu central Abdoulaye Doucouré. Mais les joueurs de Ruben Amorim ont su revenir au score par l'intermédiaire de Bruno Fernandes et Manuel Ugarte. Score final 2-2, United reste malheureusement scotché dans la deuxième partie de tableau à la 12e place. Et puis autre résultat de la journée, la défaite surprenante d'Arsenal, deuxième de Première Ligue sur la pelouse de West Ham 1-0.
Le rugby avec la suite de la troisième journée du tournoi Destination, l'Irlande s'en sort de justesse face au Pays de Galles.
Ouais, face à des Gallois valeureux, l'Irlande a souffert à Cardiff mais a fini par s'imposer 27-18 et poursuit sa route vers le Grand Chelem avec comme prochain obstacle la réception de la France.
En biathlon, l'équipe de France termine deuxième de l'épreuve de relais lors des championnats du monde.
Oui, c'est la Norvège des frères Bø qui a été sacrée en relais masculin devant l'équipe de France favorite lors de ces mondiaux 2025 en Suisse. La troisième place est revenue à l'Allemagne après le sacre mondial de l'équipe féminine en relais. Les relayeurs français ont offert à leur délégation une 12e médaille en 10 courses.
Sofiane Amazon pour les sports.
RFI Soir, Philippe Le Caplin.
L'actualité des médias avec deux chaînes de télévision françaises qui vont devoir cesser d'émettre dans quelques jours. La disparition de C8 et de Énergie 12 qui est maintenant actée définitivement par une décision du Conseil d'État à Amaury de Roche-Gondin.
Oui, une décision sur le fond qui mettra fin à ces chaînes le 28 février au soir, 20 ans après leur lancement. Ce n'est pas rien de voir une chaîne hertzienne s'arrêter. Ce n'est arrivé que deux fois, en 87 avec la chaîne musicale TV6 et en 92 avec l'arrêt de la 5. Le Conseil d'État a bien pesé les arguments de l'ARCOM et des plaignants, le groupe Canal+ et le groupe Énergie, et il a donné raison aux régulateurs. C8 disparaît d'abord à cause de manquements répétés de Cyril Hanouna dans son émission Touche-moi à mon poste qui ont amené la chaîne à cumuler 7,6 millions d'euros d'amende. Des insultes envers le député LFI Louis Boyard lui ont même valu 4000 euros d'amende jeudi par la justice, alors que la sanction financière fixée par l'ARCOM a atteint 3,5 millions d'euros pour les mêmes faits en raison de la non-maîtrise répétée de l'antenne. Mais ce n'est pas le seul facteur. La chaîne de Bolloré n'a jamais atteint l'équilibre et n'a donc pas fait la preuve de sa viabilité.
Et c'est également le cas de la chaîne Énergie 12.
Presque. Énergie 12 n'a eu qu'un seul exercice bénéficiaire en 20 ans. Elle n'a jamais vraiment réussi à décoller en audience, contrairement à C8 qui est devenue première chaîne de la TNT si on exclut les historiques. Après avoir diffusé des émissions de télé-réalité comme Les Anges ou Allô Nabila, elle a parié sur des magazines de divertissement ou des séries américaines. Or, l'ARCOM lui a reproché de faire trop de rediffusions et de consacrer trop de temps au téléachat. Mais on peut se demander si elle ne paye pas pas un manque d'investissement dans ces programmes et le fait qu'il est plus facile politiquement d'arrêter deux chaînes plutôt qu'une. En tout cas, l'ARCOM a préféré mettre fin à cette chaîne alors qu'il reste de la place sur la TNT, même en comptant les deux nouvelles attendues pour juin et septembre. T18, la chaîne de Daniel Kretinsky, et Ouest France TV sur le canal 19.
Et puis il y a cette inconnue qui demeure sur l'avenir de Cyril Hanouna.
C'est vrai, on sait que le groupe M6 est prêt à signer avec l'animateur pour sa chaîne W9 et sa radio Fun, à condition que ce soit du divertissement, peut-être avec un peu de faits divers ou de la politique, mais surtout pas avec des attaques ad hominem. Seulement, selon Le Parisien, c'est de nouveau le groupe Canal+ qui tient la corde. Cela permettrait à Hanouna de faire la même émission sur la chaîne C-Star et de rester sur Europe 1. Vincent, c'est ma famille, aurait dit l'animateur à propos de Vincent Bolloré. En tout cas, du RN à Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau, le soutien à Hanouna ou C8 est très marqué à droite.
Amaury de Rochegonde. Et puis à Paris, la Maison des journalistes accueille une douzaine de journalistes, justement, en exil, venus d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient. Tous et toutes ont dû fuir après avoir été menacés, parfois emprisonnés. Ici, ils peuvent, Louekal, continuer à écrire, à informer, sans risquer leur vie.
À la Maison des journalistes, chaque chambre porte le nom d'un média.
Là, il y a la chambre Ouest France.
La chambre Ouest France, qui est un partenaire historique de la Maison des journalistes aussi. L'AFP, la chambre AFP, la chambre Radio France.
C'est Darline Cotière, la directrice de la Maison des journalistes, qui nous fait visiter.
C'est une résidence, c'est un lieu de vie, un lieu d'échange.
Il y a une grande salle à manger, une cuisine où chacun a son propre placard. Et il y a aussi une bibliothèque où les journalistes reçoivent des cours de français.
Tu es égyptien ? Toi et français.
Voilà. Pour résumer, une journée type, donc ce sont les démarches administratives, des cours de français pour les non-francophones, les activités d'éducation aux médias et à l'information. Ça peut être des sorties culturelles que nous organisons, des visites de musées, des visites de rédaction. Voilà, donc c'est ainsi que nous les accompagnons.
Un journaliste reste environ 8 mois ici et dès son départ, un nouvel informateur en exil s'installe. Le dernier arrivé, c'est Jiffy Elugba Kabamba. Il a posé ses valises dans la chambre Arte. Il vient de Kinshasa et sa spécialité, c'est l'environnement.
C'est un domaine aujourd'hui qui n'est pas facile du tout. En RDC, on vous arrête, on vous menace des morts, on vous fait des convocations, on vous kidnappe et tout ça juste parce que vous dérangez en fait les entreprises, des lobbying et tout ça. Moi, j'ai été menacé à plusieurs reprises. J'ai eu des messages, j'ai aussi reçu des menaces physiques aussi qui voulaient me faire taire complètement.
Enquêter sur des crimes environnementaux, comme le pillage de bois rares dans la province de Maniema en RDC, c'est devenu de plus en plus dangereux pour Jiffy Elugba Kabamba. Son départ devenait imminent.
Quand on ne se sent pas à même de parler de ce que l'on voit, c'est une barrière en fait. Ça ne vaut pas la peine de faire du journalisme quand on n'a pas la liberté de l'expression.
Cette maison, c'est le refuge que ce jeune journaliste a choisi pour continuer à travailler. Car même à des kilomètres de Kinshasa, pas question d'arrêter d'écrire.
En France, c'est vrai, j'ai aussi des ambitions. Continuer à apprendre, continuer à travailler avec les autres, collaborer avec des journalistes. Mais être ici en France n'exclut pas le fait que je dois continuer à écrire pour la RDC. Je continue le travail. Je dois continuer à aborder des sujets pour mon pays. Rien ne s'arrête, donc je continue avec ça.
Parmi les rêves de Jiffy Elugba Kabamba, créer un média d'investigation pour parler des crimes en cours dans les forêts d'Afrique.
19h18 à Paris. Feuilletons un livre qui a pour titre « La géopolitique, comprendre le monde de demain », paru aux éditions Taillandier. Marc Semo y décrypte l'actualité du monde avec des réponses à des questions comme « Qu'est-ce que le Sud global ?» ou encore « Qu'est-ce qu'un empire ?» Il en dit plus à Frédéric Lebel.
Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, spécialiste des questions internationales. Vous avez longtemps travaillé pour Libération et Le Monde. Vous êtes éditorialiste pour le magazine Challenge. Et vous publiez aux éditions Talendier la géopolitique, comprendre le monde de demain en 100 questions. Vous employez un néologisme très intéressant dans votre livre, celui de maritimisation du monde. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que... Et le commerce maritime, aujourd'hui, est toujours plus important. Plus de 90% du commerce mondial se fait par voie de mer. Et le contrôle des mers, c'est pas le contrôle des océans, parce que par définition, il n'y a pas de frontières dans les océans une fois sortis des eaux territoriales ou des zones économiques exclusives. En revanche, le contrôle des mers, c'est le contrôle des détroits, C'est le contrôle d'un certain nombre de côtes, c'est le contrôle d'un certain nombre de régions qui sont autant de points d'appui qui permettent aux grandes flottes de contrôler les mers. Outre le néologisme de maritimisation, il y a un autre néologisme qui est celui de navalisme.
Tout à fait, qui nous amène à parler des moyens militaires déployés sur mer. Et là, on peut dire que les États-Unis sont indépassables.
Les États-Unis sont pour le moment indépassables. Alors même si numériquement, ils sont talonnés par les Chinois, mais c'est classique. Si vous voulez, dans le monde des relations nationales, l'hyperpuissance, la première puissance, a toujours été celle qui dominait les mers. Alors ça avait été le cas du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne au 19e siècle et au début du 20e. C'est ensuite le cas des Américains et aujourd'hui, ils sont défiés par la Chine. Alors ensuite, il y a une autre dimension qui est celle des puissances mixtes, qui sont à la fois maritimes et terrestres, comme pouvait l'être la France, bon, qui n'a jamais eu trop de chance avec la mer. Et d'ailleurs, on peut regretter en France, alors que la France a le deuxième domaine maritime au monde, notamment dans l'Indo-Pacifique, que jamais la politique française n'a joué le primat de la mer.
Et la France aimerait, vous le disiez, avoir un rôle dans cette région, mais ses moyens sont dérisoires.
Ben voilà, la France a un rôle. D'abord, de tous les pays de l'Union européenne, c'est la seule qui plante son drapeau dans des territoires dans l'Indo-Pacifique. Mais nos moyens sont dérisoires, c'est quelques frégates. Et dans un rapport de l'IFRI, ils estimaient que c'était comme si on avait une voiture de patrouille pour tout le territoire français.
On parle de plus en plus de l'océan Arctique, et pas seulement en raison des déclarations provocatrices de Donald Trump sur l'annexion du Groenland. Quelle place cet océan de l'extrême nord pourrait-il tenir dans la future géopolitique du monde?
Une place clé, parce que d'abord, c'est le plus petit des océans, 14 millions de kilomètres carrés, mais c'est quand même pas rien. Mais surtout avec le réchauffement climatique, le fait que déjà l'été, la mer sera ouverte, et ça peut même l'être malheureusement si le réchauffement continue à s'accentuer même plus longtemps dans l'année, ben il est possible de passer par là, pour passer de l'Atlantique au Pacifique ou réciproquement, pour aller vers l'Asie, ce qui raccourcit d'au moins un tiers le voyage. C'est non seulement un enjeu stratégique toujours plus important, il l'était déjà, hein, ne faut pas oublier que pendant la guerre, les États-Unis avaient installé à Thule une énorme base pour militaire. Aujourd'hui, il faut voir que dans l'Arctique, il y a plus de sous-marins russes et chinois que d'ours polaires.
On parle de l'importance des mers dans les rapports de force mondiaux. Elles sont à double titre stratégique, en raison aussi des câbles de communication qui sont au fond des océans. À l'heure de l'IA, c'est une matérialité qu'on ne peut pas oublier.
C'est ce qu'on oublie. C'est-à-dire, on a l'impression, Internet, c'est le satellite, machin, le cloud, immatériel et tout. C'est pas vrai. Les centres de data, etc. Et la communication, ça passe par des trucs qui sont extrêmement physiques, qui sont des millions de kilomètres de câbles sous-marins. Hein. Ils sont 500 grands câbles, à peu près 550 grands câbles sous-marins. Alors, ils sont pas très épais, c'est à peine un poignet, mais c'est par là que transitent à peu près toutes les données du numérique, et presque tous passent par les États-Unis, y compris les câbles qui relient l'Europe à l'Asie, ils passent par les États-Unis. Alors, ce qui permet aux États-Unis d'ailleurs de tout écouter, et on s'aperçoit aussi de leur enjeu stratégique. On l'a vu avec la guerre dans les relations avec la Russie, en Baltique, où régulièrement des chalutiers ou des navires fantômes russes coupent ces câbles, on les répare.
Guerre hybride, conflit de haute intensité, maritimisation du monde, autant de concepts que vous avez décryptés dans votre livre, Marc Semo, La géopolitique, comprendre le monde de demain, qui paraît aux éditions Talendier. Merci à vous.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Avec une page culturelle à présent dans RFI Soir, commençons par nous rendre en Côte d'Ivoire, où Floppy Mendoza fait le tour des écoles et des centres culturels avec un outil, le Kamishibai. C'est un instrument de théâtre japonais. Elle l'a totalement adapté aux us et coutumes ivoiriens. Binta Diaye est allée pour nous au cours Lamartine à Abidjan.
Un petit théâtre en bois est posé sur une table et derrière, la conteuse Floppy Mendoza encourage les enfants à chanter. Elle ouvre progressivement les portes de cet objet qu'elle surnomme le Ngoasa.
Ngoa qui veut dire histoire dans la langue baoulé. Et quand on dit soi, c'est la maison. Donc c'est la maison à histoire.
Et c'est parti, Floppy raconte l'histoire d'un village secoué par la disparition d'œufs magiques, des œufs qui permettent de faire apparaître n'importe quel plat.
Quand on mange quoi encore ? Le foufou, chacun t'a dit son plat préféré comme ça.
Pour attirer l'attention du public, il a fallu adapter le castelet. Floppy Mendoza.
Quand tu ouvres le casse-télé, ça ressemble à une télé. Donc c'est le mélange de comment on racontait les histoires avant et aujourd'hui, les histoires qui se font à la télé, j'essaie de faire le mélange.
La conteuse fait défiler des dessins représentant les principales actions de l'histoire. Le public participe largement au spectacle, de quoi inspirer Sophie Théua, une institutrice qui y voit un outil pédagogique pour ses activités éducatives.
Ça me donne des idées pour véhiculer le message qu'on veut dans d'autres activités. On peut l'introduire. Et là, ça me donne vraiment beaucoup d'idées à l'utiliser. À l'utiliser pour vraiment permettre aux enfants de se l'approprier.
Les débouchés concernent aussi les illustrateurs. Constat dressé par Ange Boussou, étudiant en master d'art et communication, ce jeune travaille avec plusieurs conteurs ivoiriens et grâce à son portfolio diffusé sur les réseaux sociaux, il répond aussi à des projets commandés de l'étranger.
C'est un constat d'avoir beaucoup de demandes concernant les chara-designs de personnages africains et les chara-de décors pour des films ou séries africaines. C'est des choses qui sont beaucoup demandées parce que c'est notre culture. J'ai récemment eu une cliente qui m'a contacté depuis le Congo. Dans le même esprit, toujours avec des personnages héroïques africains, des décors aussi, scènes africaines. On a nos messages, nous aussi nos traditions qu'on aimerait communiquer aussi.
Tout récemment, une trentaine de bibliothécaires, de maîtres d'école et de conteurs ont été initiés au Kamishibai, version ivoirienne. Binta Diane Abidjan, RFI.
L'actualité culturelle en France à présent, c'est le Lac des Cygnes donné ce soir et demain soir au Casino de Paris. Ce conte romantique, chef-d'œuvre de Tchaïkovski, servi par 42 danseurs et 35 musiciens, des décors majestueux, des costumes de qualité, fait la part belle à la beauté, à l'élégance, à l'harmonie, à des années-lumière de ce qui se passe actuellement dans l'est de l'Ukraine, où règne le froid, la boue, la mort. Or, la troupe est composée de nombreux Russes et Ukrainiens. Elle s'appelait le Saint-Pétersbourg Festival Ballet. Avec la guerre, elle a été rebaptisée du nom plus neutre de International Festival Ballet. Et Katarina Romanova est chargée de la production du Lac des Cygnes.
Beaucoup de danseurs russes ne peuvent pas sortir du territoire. La proportion a beaucoup changé. Maintenant, sur 45 danseurs, 5 sont des réfugiés politiques russes qui vivent en Europe occidentale. Et 20 danseurs ukrainiens qui sont aussi réfugiés politiques et qui vivent en Europe et de temps en temps ils retournent en Ukraine. Les Russes qui sont restés, qui sont réfugiés politiques, qui sont restés au sein de notre troupe, qui tournent avec nous, ils sont complètement d'accord avec le côté ukrainien. On vit très étroitement en tournée déjà de manière intime mais aussi proche parce qu'on dort, ils peuvent partager des chambres, ils peuvent partager, ils sont tout le temps dans le même bus et ils partagent leur vie 24 heures sur 24, sur plateau et ailleurs. On a des liens de famille en Ukraine et pareil en Russie, on ne peut pas nier ces connexions-là. Et ça donne pas, ça provoque pas de conflits personnels. En fait, ça a été un choc immense au niveau de tout le monde, au centre de troupes, même les peuples qui sont pas directement liés à ce conflit-là. On a des Lettoniens, des Polonais, des Moldaves et des Hongrois dans le troupe. Ça a été quand même un grand choc et on vivait les premiers mois, on vivait dans ce quotidien et après maintenant, comme avec chaque événement aussi négatif, la psychologie humaine fait que on s'habitue à la nouvelle, à la réalité et maintenant on vit en fait avec de manière constante et ça nous provoque des petits chocs. Quand on entend, par exemple, que familles des villes ont été bombardées et tout, mais ça ne touche pas vraiment constamment maintenant comme avant.
Le Lac des Cygnes commence dans une demi-heure au Casino de Paris et sera rejoué demain soir avant que la troupe ne parte en tournée dans les Zéniths de France. À propos de la guerre en Ukraine, édition spéciale lundi sur Radio France Internationale à l'occasion des 3 années du conflit. Dans une minute, l'actualité en Afrique.
Tout à l'heure sur RFI,
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Le MMA, ou arts martiaux mixtes, est un sport de combat de plus en plus médiatisé dans le monde. Malgré une réputation sulfureuse, ce spectacle venu des États-Unis est entré de plein pied dans le sport business. Quelles sont ses recettes et qui en bénéficie? On en parle avec nos invités.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.
L'atelier des médias, Steven Jambot.
Arnaud Contreras a participé à un voyage de presse en Ukraine organisé par le Lviv Media Forum pour des journalistes français. L'occasion de réfléchir à cette pratique des voyages de presse, qui plus est en zone de guerre, 3 ans après le début de l'invasion à grande échelle du territoire ukrainien